Alors, c'est ça. J'ai pas. Quand j'étais supposé d'envoyer un titre de message à Estelle pour mettre dans le bulletin, puis elle a mis mon nom, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a personne. Mais.
Ton nom aurait été derrière.
Peut-être qu'avec le titre, ça aurait pas aidé plus, là. Le titre du message, c'est Bon voyage. J'étais vraiment imbibé par mes vacances, comme vous pouvez le voir. Un matin, on a parlé de repos. Maintenant, on parle de voyage. La vie est souvent comparée à un voyage. Moi, je vois la vie comme un voyage dans lequel on prend un chemin, une route. Puis, comme tous les chemins, je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais des fois, je regarde un chemin, je regarde quelque chose sur Google Maps ou quoi de même. Avant, je le faisais sur une carte routière, là, mais je sais pas si j'en ai encore une quelque part, là. Mais je me mets à regarder sur Google Maps, puis là, je vois un chemin. Là, je dis, ah ouais, ce chemin-là, il va où? Puis là, je le suis, je le suis, je le suis. Ah ouais. Puis là, ouais, mais il arrive d'où? Puis là, Puis là, des fois, tu sais, les routes du Québec sont. Il y en a des longues, là. Puis des fois, c'est étonnant comment elles ne sont pas toutes droites. Elles sont sinueuses, puis tout ça. Mais les. C'est ça, la vie, c'est un voyage dans lequel on prend des chemins. On prend des décisions qui nous font changer de chemin. Puis, quand on voyage, ça peut être bon de savoir où on va, quand on va partir, comment on va y aller, puis pourquoi on y va. Puis, je veux qu'on s'attarde là-dessus après-midi. C'est ça. Quand j'ai eu ma première voiture, j'ai été abonné au CAA. Puis, je me souviens, moi j'aimais bien le CAA. Pas juste pour débarrer les portes d'auto de mes amis, là, mais parce que trois quarts du temps, ça servait à ça. Mais pour des clés oubliées ou des affaires de même. Mais aussi, j'aimais bien leur service. Pour les voyages. Quand je partais en voyage, là, je me faisais faire ce qu'ils appelaient un trip kit. Ça, j'aimais ça. J'en avais une boîte pleine chez nous. Puis, c'est ça. Je partais en quelque part, je disais, bon, ben là, je veux aller à telle place. Puis, je pars de telle place. Puis là, je vais arrêter à telle place. Puis là, ils me dessinaient tout ça, là. C'est une petite carte. C'était des petits bouts de carte, là, qu'on flippait, là. Puis, et puis là, on voyait tout le chemin, puis là, je prenais des cartes de la place. Je voulais que ce soit clair. J'aimais voir là, où qu'on s'en va, par où on va aller, puis. Et tout ça. Puis, c'est ça. Le voyage que je veux qu'on regarde ensemble après-midi, c'est le voyage de la vie chrétienne. Pas juste la vie comme ça, mais notre vie chrétienne. Comment. Justement, qu'est-ce qu'il y en est de cette vie-là? Parce que c'est un voyage pour lequel Dieu il a tout planifié. Puis ça, on a vu ce matin comment, justement, Dieu a planifié toute sa création, mais il a aussi planifié nos vies. Pas qu'on n'ait pas le droit de décision, on prend des décisions, on prend des tournants et tout ça. Mais Dieu a quand même tracé un chemin. Et il nous montre le chemin avec sa parole. Alors, où ça nous mène? Où est-ce qu'on s'en va? On aime bien savoir où, c'est quoi le point d'arrivée, à moins de faire une petite promenade du dimanche. À cette heure, c'est peut-être moins commun les promenades du dimanche avec le prix de l'essence, mais. Ça arrivait quand j'étais plus jeune. Petite promenade comme ça, on ne savait pas trop qu'on s'en allait. J'espère que votre vie, ce n'est pas comme ça. On a besoin de savoir où on s'en va. Quand on fait un vrai voyage, c'est préférable, en tout cas, de savoir où on s'en va. Puis le voyage de la vie chrétienne, Eh bien, un voyage de cette envergure-là, c'est primordial de savoir hein, qu'est-ce qu'il y en est. C'est important. Le voyage que Dieu a pour nous, ben, il l'a tracé. Puis, on doit le chercher, on doit voir qu'est-ce qu'il a tracé pour nous, qu'est-ce qui s'attend. Et ce voyage-là, il y a un point de départ. Parce que oui, on peut avoir une idée où on s'en va, mais où est-ce qu'il commence? Puis, tournez avec moi dans Hébreux 10. Hébreux 10, 19. Ça nous dit « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. » Alors, c'est le point de départ de ce fameux voyage-là, une route. Ça nous dit que c'est une route que Jésus-Christ a inauguré pour nous. Puis là, c'est intéressant qu'il a inauguré au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. C'est-à-dire du fait qu'il est venu en chair sur cette terre. Et il a inauguré cette route en ce qu'il nous a montré un exemple par sa vie, un exemple par sa mort, mais aussi il a ouvert une route nouvelle par sa mort. Et en tant que souverain sacrificateur, ça dit au travers du voile, et ça nous dit même ailleurs que Jésus-Christ est entré, il a traversé à travers le voile, puis ça dit qu'on l'a vu ce matin encore dans Hébreu, qu'il a traversé les cieux, et puis qu'il est le Saint des Saints, le lieu très saint, pour nous ouvrir cette voie-là. Pour nous ouvrir une libre entrée dans le sanctuaire. Et c'est là le point où on veut se rendre, l'endroit où on veut aller, l'endroit où notre vie chrétienne devrait être, devrait se tenir. Puis c'est un chemin qui est là, qui est dans ce cadre-là. Abraham ne savait pas trop tout ce qui l'attendait. Dans son voyage, Dieu lui a dit « Abraham, tu vas quitter ton lieu, tu vas quitter ta patrie, puis tu vas t'en aller dans un endroit que tu ne connais pas, un endroit que tu vas être étranger. » Et tout ce qu'il savait, c'est Dieu lui avait demandé d'aller à cet endroit-là. Ça nous dit dans Hébreux 11, verset 8 à 10, « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans une terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Et là, c'est intéressant parce qu'il y a une sorte de transition en plein milieu. Et puis, l'Épître aux Hébreux fait ça souvent. Si vous l'avez remarqué, là, ce matin, on a touché quand même quelques versets dans cette Épître-là. Et ça revient, il touche une chose du présent, puis une chose du futur. Une chose de la terre, une chose du ciel. Et c'est là, toute l'Épître aux Hébreux, c'est une sorte de comparaison. Il compare ce qui était là, ce qui était physique, visible, terrestre, temporel. Puis il compare à quelque chose de plus grand qui est spirituel, invisible, céleste et éternel. Et j'ai toujours aimé ce genre de construction-là, de comparaison qui nous aide à voir combien plus grand, puis c'est ce que l'Épître aux Hébreux fait, avec Jésus-Christ, avec son sacerdoce, mais ici aussi avec justement le pèlerinage, si on pourrait dire, d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, « Bon, tu vas partir, tu vas aller dans cet endroit-là qu'Abraham ne connaissait pas, Il n'était pas abonné au CA, puis il n'a pas sorti sa carte, il n'a pas été sur Google. Il n'avait aucune idée où il s'en allait. Mais Abraham avait la foi en Dieu, croyait en Dieu, il avait confiance, puis il savait que Dieu allait l'amener dans un endroit qui serait bon pour lui. Et pourquoi il avait cette confiance-là? Dans les choses, juste pour les choses temporelles, eh bien parce qu'il y avait une confiance pour les choses éternelles. Amen. Ça nous dit, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Je trouve ça tellement beau de l'architecte et le constructeur. Des fois, on peut regarder des édifices, des ponts, des structures qui sont... ça nous jette à terre, comment c'est grandiose et tout ça. Et puis ça, c'est juste des principes que l'homme a tirés de la nature pour des principes physiques, puis qui ont recopié pour faire une structure qui allait se tenir. Mais Dieu est l'architecte de quelque chose de tellement plus grand, puis tellement grand qu'on ne peut même pas le voir de nos yeux. Et il attendait cette cité-là qui a de solides fondements. Des fondements qui ne peuvent pas être ébranlés. Et Abraham savait que c'était beaucoup mieux que juste son moment sur la terre. Il a vécu au-dessus de 100 ans, 120 ans. Et malgré ce nombre d'années-là, c'était rien par rapport à l'éternité qui allait le suivre et dans laquelle il allait entrer auprès de son Sauveur. Et cette cité-là, tout simplement, Abraham, quand il est parti par la foi, c'était pas seulement pour obtenir la promesse terrestre, la promesse d'une terre où il allait pouvoir s'établir et tout ça, mais tout simplement, Abraham voulait obéir à Dieu pour obtenir une plus grande promesse. Et puis c'est là toute la beauté de la chose. Alors, Abraham connaissait l'objectif final et la prochaine étape qui l'attendait. Et tout ce qu'il avait à faire, eh bien, c'était un pas d'obéissance immédiat. Et c'est pour ça qu'Abraham se retrouve dans ce livre, dans cette épître aux Hébreux, comme c'est celui qui a le plus de versets décrits sur lui, dans l'Épître aux Hébreux, après Jésus-Christ, évidemment. Tout simplement parce que il a montré comment ça commençait ce chemin-là, ce pèlerinage-là. Alors, il attendait une cité céleste dans les lieux célestes, une cité dans les lieux très hauts. Et ça nous dit au verset 15, s'ils avaient eu, puis là ça parle pas juste d'Abraham, mais parce que dans le verset 9, ça disait que Isaac et Jacob aussi sont co-héritiers de cette promesse-là, parce qu'eux aussi l'ont obtenue par la foi. S'ils avaient eu en vue celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et si Abraham a obtenu ça par la foi, Isaac et Jacob aussi, eh bien, nous aussi, on peut s'approprier cette même promesse-là. Cette même promesse-là qu'on peut l'obtenir par la foi, qu'on peut la chérir par la foi. La présence même de Dieu, c'est ce qui était envisagé dans ce fameux voyage-là. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17, ça nous dit « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, vous voulez savoir où? Eh bien, ça va passer par les nuées. Puis, ça risque d'être rapide. J'ose croire qu'on va être transformé en un clin d'œil, parce que si on monte à cette vitesse-là, notre corps va se désagréger. Mais n'est-ce pas que c'est ce qu'on attend? Puis encore dans Colossiens chapitre 1, verset 22, ça nous dit, pour vous faire... c'est bien ça? Colossiens 1, 22, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut, sans reproche. Et encore dans Philippiens, je fais une petite rafale, Philippiens 3:20, ça nous dit encore, « Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Alors, c'est là que ça va se passer. Et c'est ce qu'on attend, c'est le but visé, c'est le fil d'arrivée. Et on a à espérer dans cette avenue-là, dans cette promesse-là que le Seigneur nous a faite, que non seulement on a un point de départ ici-bas, mais qu'on va passer, par les nuées, on va aller le rejoindre, puis il va nous reconduire jusqu'à la maison, jusqu'à notre cité céleste, pour être toujours avec lui. Puis avez-vous déjà pensé au fait que le jour où on va être enlevé avec lui, ça dit nous serons toujours avec lui. Le Seigneur va revenir pour régner sur la terre. On va revenir avec lui. On va être toujours avec lui. Il ne repartira plus. Maintenant, pour ceux qui ont des enfants, ceux qui n'ont pas d'enfants, vous avez peut-être déjà entendu cette phrase-là. Quand est-ce qu'on part? Quand est-ce qu'on part? Vous l'avez dit? Peut-être que ça vous rappelle des vieux souvenirs, là, mais moi, c'est assez récent, ces souvenirs-là. Quand est-ce qu'on part? Eh bien, la réponse est simple. Hébreux chapitre 3, verset 7. On chevauche un peu ce qu'on a vu ce matin. Moi, j'ai bien de la misère quand j'ai une idée dans la tête à me la décoller puis à penser à d'autres choses. Ça nous dit, chapitre 3, verset 7, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, on part aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore parti, bien, c'est le temps de partir. Si vous êtes parti, bien, aujourd'hui, vous êtes dans le voyage. Vous faites partie du voyage. Et comme des enfants, bien, des fois, on peut tarder. C'est pour ça que ça nous dit, verset 8, n'endurcissez pas vos cœurs. Et des fois, on est lent à décoller. On a de la misère à vouloir rentrer. Puis, pourquoi on a tant de misère? Pourquoi on tarde tant? Un peu comme les enfants. Puis, je comprends mieux les enfants, mais ça va nous aider à nous comprendre nous-mêmes. Quand on part en voyage, là, il y a toujours des petites affaires à régler ou bien quand qu'on est en visite à quelque part et qu'on dit là, on s'en va. Puis on dit c'est le temps de partir. Puis là, les enfants tardent. Pourquoi ils tardent? Parce qu'ils savent que souvent, ça prend du temps. Puis à un moment donné, quand on est vraiment prêt à partir, bien, ils ne nous croient plus. Ils ne nous croient plus. Ils disent là, on ne partira jamais, ça n'arrivera jamais. Puis c'est on agit un petit peu comme ça. Avec Dieu, alors qu'on n'a aucune raison. Parce qu'avec Dieu, ça arrive toujours. Mm-hmm. Quand il dit on part, on part. Amen. Puis le jour où il va dire on arrive, on va arriver. Amen. Il n'y a pas de... Alors ne soyons plus des enfants mm-hmm. au sujet du partir et de l'arriver. Quand c'est le temps de partir, quand Dieu nous dit de partir, on doit partir. Ça dit aussi dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Et on sait quand on, quand on prêche aux autres, quand on veut annoncer la bonne nouvelle aux gens, on leur dit « tarde pas, parce que tu ne sais pas demain qu'est-ce qui va arriver. » Puis en effet, c'est la même chose pour nous autres. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain. Et encore là, on ne sait pas quand est-ce que Jésus va décider « ok, c'est terminé, c'est le temps, là. On arrive, puis c'est le fil d'arrivée. » Alors, si on tarde dans notre marche avec le Seigneur, si on tarde à commencer à obéir, à commencer à faire ce que le Seigneur nous montre, jour après jour, eh bien, on va manquer le bateau. On va se retrouver que, ah ouais, puis je sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, il y a des choses qui nous tardent moins, qui nous le disent moins, puis on remet ça à demain, puis c'est plus dur à décoller. Puis, c'est ça, à un moment donné, si on fait ça tout le temps, qu'on prend l'habitude de remettre ce que Dieu nous dit de faire aujourd'hui, eh bien, on va se retrouver qu'on n'aura pas le temps de le faire. Dans Matthieu 24, on parle encore de l'arrivée. Une autre belle question qu'on entend quand on est en voyage. Quand est-ce qu'on arrive? Il reste combien de temps? Il est quelle heure? Moi, j'ai une professionnelle de ça chez nous. Elle ne sent pas viser du tout, du tout. C'est le fun d'avoir une famille. On a plein d'images, plein de... Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Là, vous pouvez dire, ah, c'est donc bien décevant, ça. On peut pas... Dieu a voulu garder ça comme ça. Et pourquoi? On va le voir, 1 Thessaloniciens chapitre 5. On a un bon indice pourquoi. 1 Thessaloniciens chapitre 5. J'ai pas tout écrit les versets. J'ai manqué un petit peu de temps. Versets 2 et 3. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Alors, tout ce qu'on sait, c'est que le point d'arrivée, le temps où Dieu va l'avoir décidé, c'est le Père seul qui le sait. Mais ça nous dit que ça va venir comme un voleur pas pour nous, ça ne devrait pas nous surprendre comme un voleur, parce que ça nous dit de veiller et prier, de rester éveillé, d'être prêt. Et si on retourne dans Hébreux 10, 25, ça nous dit encore, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » S'approcher le jour. Un enfant de Dieu va voir s'approcher le jour, et on le sent. Alors, on en parle de plus en plus parce qu'on voit les événements qui défilent. Alors, c'est ça, le jour vient bientôt. On ne doit pas s'endormir, on doit rester éveillé. Maintenant qu'on sait d'où on part puis où on s'en va, eh bien, comment est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on y va en chaloupe, en bateau, en vélo? Dans Hébreux 11, on va rester un petit peu plus dans Hébreu pour les prochaines minutes. Hébreux 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Ça, c'est pas me semble que c'est moins encourageant. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Alors notre vie, ce n'est qu'un voyage, un pèlerinage qu'on fait dans l'attente de cette fameuse cité-là que Dieu nous promet. Et c'est quoi le moyen, notre moyen de transport, celui qui va nous mener à bon port? Eh bien, c'est par la foi. C'est dans la foi. Encore au verset 24 du même chapitre. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alors, notre foi n'est pas dans le vide, mais notre foi est basée sur les promesses de Dieu, sur la rémunération. Dieu nous promet quelque chose au fil d'arrivée. Et c'est pour ça, c'est ce qui devrait nous motiver. Puis c'est là toute la liste, cette fameuse liste dans Hébreux 11. Tous les débuts de phrases, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Puis chaque fois que quelqu'un partait, c'était par la foi, parce que Dieu lui avait promis quelque chose. Et c'est la même chose pour nous. Si on marche aujourd'hui, si on avance dans notre vie, eh bien c'est parce que Dieu nous a fait des promesses. Il nous a promis une vie éternelle. Il nous a promis qu'il allait être avec nous. Il nous a promis qu'il allait nous conduire. Il nous a promis qu'il allait pourvoir pour toute la route. Et puis là, je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois, j'énumère ces choses-là, puis tout ce que je fais, c'est voir le peuple de Dieu dans le désert. C'est exactement la promesse que Dieu leur avait faite. Exactement. Et puis, c'est le point central, justement, des Hébreux dans ses avertissements, parce qu'il avertit le peuple de Dieu, évidemment, l'épître aux Hébreux. Alors, il avertit les Juifs. Il dit, regardez ceux qui étaient là avant vous autres, là, vous êtes les descendants de ces gens-là qui ont pas pris pour eux les promesses de Dieu. Ils ont péri dans le désert, ils ont péri à gauche et à droite. Ils n'ont pas saisi les promesses que Dieu avait pour eux. Alors qu'ici, il est en train d'énumérer la liste de ceux qui, de toute évidence, ont saisi ces promesses-là et les ont chéris dans leur cœur à un point qui pouvaient se rendre jusqu'au fil d'arrivée. Et puis, ils sont arrivés au fil d'arrivée sans nécessairement avoir tout obtenu. Ça nous dit au verset 13, sans avoir obtenu les choses promises. De quoi il parle ici? Il n'est pas en train de parler de la promesse ultime, il est en train de parler des choses terrestres. De cette fameuse Moïse, il n'est jamais entré dans la terre promise. Il ne l'a jamais vu. Il l'a vu de loin, d'une montagne, mais il a pas mis les pieds, il n'a pas traversé le Jourdain. Il l'a salué de loin. Dieu lui a fait cette grâce-là d'au moins voir. Mais ça dit qu'ils n'ont pas obtenu ces promesses-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi, mais ils avaient en tête quelque chose de plus grand. Et c'est ce que Dieu voulait pour eux. Et c'est ce qu'ils ont obtenu. Est-ce que ces gens-là sont morts misérables? Bien sûr que non. Si vous regardez cette liste-là, l'histoire de ces gens-là, autant d'embûches, autant de revirements, autant de qui peut avoir eu toutes sortes de choses dans leur vie, des fois de la désobéissance. Vous faites juste penser, je regarde les noms-là, Isaac, Jacob, c'était des hommes ratoureux. Moïse, pourquoi il n'a pas mis les pieds dans la terre promise? Parce que un bon moment donné, il a perdu patience, puis il a désobéi. Et On peut avoir d'autres qui ont commencé leur vie comme Rahab, qui était une prostituée, puis comment Dieu a fait de quoi de grandiose avec elle. Puis alors, c'était quoi qui était important? Est-ce que c'était les choses terrestres ou les choses célestes? Et puis, ce pèlerinage-là est pour nous amener justement aux choses célestes, nous amener à voir au-delà d'une promesse. Oui, il y a des promesses pour cette terre. Dieu nous promet des choses physiques qu'il va pourvoir et à nos besoins, puis ces choses-là, mais il y a quelque chose d'encore plus grand. Dans Matthieu, ça nous dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » On n'a pas à viser des promesses terrestres. Toujours dans Hébreux 11, versets 39 et 40. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Pas sans nous. Si ça avait été la finalité, un royaume terrestre, comme beaucoup pensaient, hein, à l'époque de Jésus, quand Jésus est rentré, puis là, les gens, Hosanna au Fils de Dieu, puis hey, on l'a trouvé notre roi, puis si ça s'arrêtait là, eh bien, il serait parvenu sans nous. Dieu avait de quoi d'encore plus grand, il nous voulait. Il nous voulait, puis il voulait nous amener à la perfection. Et au chapitre 12, toujours dans Hébreu, chapitre 12, versets 1 et 2. Nous tous donc, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Encore là, deux versets qui sont chargés d'images et de signification. Courons avec persévérance. Notre foi devrait nous amener à persévérer dans cette poursuite-là de la promesse. Et comment on garde la foi? Comment est-ce qu'on peut garder cette foi-là? Eh bien, ça nous dit les regards sur Jésus. Parce que c'est lui qui suscite la foi. C'est lui qui l'amène à la perfection. Alors, tant ou aussi longtemps qu'on a les regards sur Jésus, qui lui-même a souffert la croix, lui-même s'est rendu, il a été maltraité, méprisé, eh bien, il était prêt à ça parce qu'il connaissait la fin de toute chose, il connaissait ce qui en était, il connaissait que Dieu est fidèle, et il connaissait aussi notre besoin, et il s'est rendu à la droite du trône de Dieu parce qu'il nous attend. Ça nous dit qu'il nous prépare une place. Il nous prépare une place. Il est là. Alors, on doit avoir les yeux fixés sur la rémunération, comme ça nous dit dans Philippiens. Je vais tourner rapidement. Philippiens 3, 12. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. La vocation céleste. C'est pas juste une petite place comme ça qui est préparée si jamais on veut y aller, ou un chalet, genre de chalet Cet été, on est allé visiter mon frère et il loue un chalet sur le bord du lac Memphrémagog. Puis tout près, il y a un autre, j'ose pas dire chalet, ça pourrait être décrit comme un palais, mais pour cette personne-là, c'est un chalet. C'est des multimillionnaires québécois, probablement peut-être même un ou deux milliards, là, qui trans... En tout cas, puis juste la maison, c'est à peu près une dizaine de fois la mienne. Et ça, c'est à part de tous les garages, puis la piscine, puis ci, puis ça, puis les autres maisons pour les invités. Puis ces gens-là sont pas là. Mon frère avait travaillé pour faire des rénovations sur... dans cette maison-là, puis c'est des rénovations, là, c'est des dizaines de milliers de dollars, juste parce qu'il n'aimait pas la grosseur de la fenêtre, puis il voulait la changer, ou des choses comme ça. Puis ils sont jamais là. Ils vont peut-être une fois ou deux. Mais nous, c'est une vocation. On est voués à cette cité-là, à y passer le reste de nos jours. J'espère que ça nous... ça rend ça alléchant. Ça devrait l'être. Ça devrait l'être. Et maintenant, pourquoi tout ça? Pourquoi tout ce voyage-là? Pourquoi on va là? Drôle de question, hein? Il a fallu que je me creuse la tête. Mais Dieu a une réponse. Dieu a créé l'homme de manière à avoir de la communion avec lui. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on a parlé ce matin. On n'est pas comme des animaux. Si vous regardez les animaux, puis je ne vois pas beaucoup d'animaux espérer en grand-chose, hein, à part qu'ils courent vite pour se sauver d'un autre animal plus gros. OK, il n'y a pas... Nous, on va s'émerveiller devant ça, mais les animaux, ils n'ont rien à faire de tout ça. Ils vivent, puis ça finit là. Nous, Dieu nous a créés pour pouvoir s'émerveiller, pour pouvoir partager avec lui ce qu'il avait créé, pour pouvoir partager avec lui même des choses qu'on n'a encore jamais vues, des endroits qui nous dépassent. Quand on regarde juste... les étoiles, je me souviens encore, j'avais été à Rivière-du-Loup chez des amis, puis on avait regardé les étoiles, il y a pas mal moins de lumière là-bas qu'il y en a ici, puis c'est impressionnant, juste à l'œil nu, on voit la Voie lactée, ça j'avais jamais vu ça, puis avec mon appareil photo, j'ai un très bon zoom, puis j'ai zoomé dans le ciel en pleine nuit. Puis j'ai pris une photo le plus loin que je pouvais. Puis c'est incroyable, ça nous coupe le souffle. Juste de voir la distance, puis Dieu est au-delà de ça. On peut même pas, il n'y a pas de mots pour décrire ça. Dieu veut nous montrer quelque chose de mieux. Il veut passer du temps avec nous. N'est-ce pas étonnant? Des fois, on dit « Ah, lui, il me tape ses nerfs. » Puis il y a du monde qu'on aime moins passer du temps avec. Dieu veut passer du temps avec nous. Si on prend le temps de se regarder dans le miroir, et même dans le miroir de la parole, des fois, on dit « Ouf, comment ça se fait que Dieu veut passer du temps avec moi? » Et puis c'est là le problème, c'est que souvent, on arrête là, puis on le croit pas. On croit pas que Dieu veut passer du temps avec nous. Et c'est important, parce que c'est ça qui va nous, j'allais dire un mot, une expression en anglais, mais qui va nous pousser pour arriver jusqu'où Dieu veut nous avoir. À la fin de sa vie, Job a eu beaucoup d'épreuves, et à la fin de sa vie... il est passé par toutes sortes d'émotions, de l'incompréhension. Il y avait des amis plutôt, faut croire qu'il ne connaissait pas tant que ça. Puis Job a répondu quand Dieu lui a parlé, on va dire en québécois, lui a parlé dans le casque. Ça a l'air sévère, mais malgré la sévérité dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu a à nous dire, il y a une bonté, il y a un amour, il y a une affection pour nous parce qu'il veut nous montrer quelque chose. Et Job a dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Maintenant mon œil t'a vu, puis c'est une chose, on peut connaître tellement de choses au sujet de Dieu, puis oui c'est beau, mais c'est rien à comparer à qu'est-ce que c'est de connaître Dieu. Qu'est-ce que c'est d'apprendre, de savourer toutes les richesses de sa grâce, de sa bonté, le fait que Dieu nous veut comme amis. Il nous veut comme amis. Nous qui ne sommes pas aimables, il nous veut comme amis. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Passer du temps, passer l'éternité avec celui qui m'a créé, celui qui a tout créé, celui qui a, dont l'œuvre, comme j'ai dit ce matin, l'œuvre terrestre, mais l'œuvre aussi spirituelle est terminée, complète. Lui qui nous a rachetés, ça vaut la peine. On va reculer pour terminer avec Hébreux 6. Hébreux 6, versets 18 et 19. Ça nous dit, on va commencer au verset 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Je vais arrêter là pour tout de suite. Deux choses immuables. Quelles sont ces deux choses immuables-là par lesquelles Dieu est intervenu? Eh bien, ça dit qu'il est intervenu par un serment par-dessus sa promesse. Dieu avait fait une promesse aux héritiers et il est intervenu avec un serment en plus pour qu'il soit certain que ça allait arriver, pour être sûr que ça soit scellé, que ça ne puisse pas changer. Et c'est impossible que Dieu mente. C'est impossible que Dieu mente parce que c'est Dieu est le Dieu de la vérité, le Dieu véritable, celui qui est la source même de la vérité. Et pourquoi qu'il a fait ça? Pour qu'on trouve un puissant encouragement. Pas juste un encouragement, un puissant encouragement, parce que Dieu sait très bien à travers quoi on passe. Il sait très bien que la vie nous tiraille de gauche à droite. Il sait très bien qu'on est faible. Il sait toutes ces choses-là. Puis il sait qu'il a besoin de nous donner un puissant encouragement. Ça dit, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Saisir cette espérance-là, de la saisir par la foi comme un refuge, comme un endroit qu'on n'a pas d'autre place à où aller. Et ça, c'est le problème de nos jours. Les gens ont toutes sortes de places où aller, toutes sortes de choses à voir. On est dérangé de toutes parts, tous côtés. Mais il y a un seul refuge auquel on devrait aller. Un seul refuge qui va nous garantir qu'on va arriver. Un seul refuge qui va nous garder dans l'espérance de ce qui s'en vient. Et ça nous dit au verset 19, « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. » Une ancre de l'âme, sûre et solide. La vie est souvent comparée à une mer agitée. Puis là, les flots nous balancent de bord et d'autre, puis de part et d'autre. Mais l'espérance dans ce que Dieu nous a dit, dans les promesses que Dieu nous a données, c'est une ancre. Puis l'ancre, si vous faites juste, si vous êtes sur l'océan, puis que vous faites juste dérouler 10 pieds de chaîne, là, ben ça se peut que votre bateau, ça change pas grand-chose. Vous allez être ballotté par les vagues, et ça va vous amener à peu près n'importe où. Mais une ancre sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours. Et là, elle pénètre au-delà du voile. Elle pénètre encore une fois dans le lieu très saint. Le saint des saints, l'endroit le plus sûr qu'il n'y a pas dans l'univers. Elle est ancrée là. Puis c'est l'image du fond de la mer. Puis là, c'est ancré solide. Ça ne peut pas bouger. C'est pris là. Et les mots qui sont utilisés ici, sûr et solide, c'est des mots assez intéressants. Le mot sûr, c'est un mot qui... Dans le grec, c'est asphalte. Pas asphalte, mais asphalte. Et ce mot-là, ça décrit une sorte de composé, comme de l'asphalte, justement. Un composé qui va tenir tout ensemble. Qui va joindre les parties ensemble. Et le mot solide, c'est un mot, j'ai pas le mot de toute façon. C'est pas nécessaire. Mais ça a le sens de quelque chose qui résiste au poids ou qui résiste à si quelqu'un marche dessus, qui va soutenir tout le poids qu'il y a à soutenir. Alors, un assemblage qui va tenir tout ça ensemble, mais en plus qui va tenir le poids de nos vies, le poids de nos fardeaux, qui va tenir tout ce qui nous pourrait nous échapper des mains, qui peut nous glisser entre les doigts, les cordages qu'on voudrait tenir. J'ai encore l'image sur l'océan. Avec un voilier, puis là on voit les gens des fois tirer sur les cordes là, puis cette ancre là, c'est notre espérance dans les promesses de Dieu. Et je veux nous encourager cet après-midi à vraiment se lancer dans cette carrière là, comme ça nous dit. Se lancer dans cette carrière qui nous est proposée, celle que Dieu veut, celle que Dieu a pour nous, cette route-là qu'il a tracée pour nos vies. Parce que Dieu a quelque chose de bien meilleur. Ici-bas, c'est juste la préparation, c'est une ombre des choses à venir. Alors, on peut se réjouir que même les plus grandes joies qu'on va avoir sur cette terre, c'est rien comparé à ce qu'on va avoir quand on va être face à face avec lui pour l'éternité.
Amen. Amen.